Shalom tout le monde. J'ai reçu un mail du Rav Partouche qui m'a dit que le cours aujourd'hui ça serait consacré à Hanouka, c'est ça? D'accord, bon ça sera donc consacré à Hanouka. Est-ce qu'il y a cours jeudi? Ah le matin, oui d'accord. Bon. Alors bonjour tout le monde. Je voudrais étudier avec vous quelque chose sur Hanouka. Un texte du Rambam, ça vous va? Hein? Pour changer. Et c'est un texte du Rambam dans son Mishneh Torah. Dans quelle halakhot vous pensez? L'halakhot Hanouka. Voilà. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus intelligent. Puisque nous parlons de Hanouka. Et il y a une chose à laquelle on ne fait pas tellement attention, par exemple dans tous les livres de Halakha sur Hanouka. Par exemple, le Shulchan Aruch. Ça commence comment, Shulchan Aruch, sur Hanouka? Bien, il dit tout simplement, le 25 qui se lève commence les jours de Hanouka. Et puis, il enchaîne, il dit, on ne fait pas de Tachanoun, on ne jeûne pas, et puis on allume les lumières, et tout le bazar. Il y a une seule chose que le Shulchan Aruch ne dit pas, mais c'est la raison de la fête. Bon, par exemple, pour les autres fêtes également, le Rambam ne dit pas la raison de la fête. Tout simplement parce que la raison de la fête est écrite dans la Torah. De même pour la Megillah, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est écrit dans Megillat Esther. Le Rambam suppose que le lecteur connaît le Tanakh et qu'il a lu l'histoire de Megillat Esther, donc il n'a pas besoin qu'on lui explique la raison de la fête de Pourim. Mais pour ce qui est de Hanouka, étant donné que la fête de Hanouka n'est pas mentionnée dans le Tanakh, le Rambam pense qu'il est nécessaire d'expliquer l'origine de la fête. Ça tient la route, non? C'est la raison pour laquelle il explique l'origine de la fête. Et c'est quoi la raison de la fête? La victoire, n'est-ce pas? C'est la victoire, c'est évident. Et alors, c'est quoi cette histoire de la fiole? Ça fait partie des raisons de la fête ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des raisons de faire une fête pour un miracle? Non. Oui. Hein? Bon, donc on pourrait faire la fête tous les jours dans ce cas-là. Oui? Je veux bien, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fête pour un miracle? Le soleil qui ne se couche pas pour Yoshua. C'est une bonne. Donc la question est pourquoi ne pas faire une fête justement pour ça? D'accord? En principe, on devrait faire une fête pour le soleil qui ne s'est pas couché pour Yoshua. Parce que s'il s'agit d'un miracle individuel, on comprend. Par exemple, l'histoire de la fiole d'huile qui a été multipliée par le prophète Elisha pour une pauvresse. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout Israël. Même si c'était un miracle, ça ne concerne que cette dame en question et ses enfants. Donc peut-être qu'elle, elle devrait faire une fête. Mais on ne fait en principe de fête que pour un miracle qui concerne le klal. Or, effectivement, l'histoire de Yoshua, le soleil qui s'est arrêté, pourquoi ne pas faire une fête, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, tout simplement, lorsque le soleil s'est arrêté pour Yoshua, il est tout à fait probable et plausible qu'on ait fait une fête. Mais cette fête a disparu. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Parce que quoi? Pourquoi à ce moment-là? Et la sortie d'Égypte alors? Qui dit qu'on a besoin d'un enseignement? Parce qu'on a perdu l'État qui a été fondé à l'époque, avec la destruction du premier temple. Donc étant donné que le premier temple a été détruit, que l'État, le royaume d'Israël et de Juda de l'époque a disparu, donc il n'y a plus lieu de fêter les événements qui ont amené sa fondation, tout simplement, même s'ils ont été miraculeux. Ah, ça se tient, non? Bon. De même, vous avez un petit livre, peut-être que vous, peut-être pas assez connu, qui s'appelle Megillat Ta'anit. Vous avez entendu parler de ce livre? Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est un petit livre qui a été écrit à l'époque du Deuxième Temple et dans lequel il y avait dedans 32 jours dans l'année où il est interdit de jeûner. D'accord? Qu'est-ce que sont ces 32 jours où il est interdit de jeûner? C'est pour la plupart des victoires des Hashmonaïm, du temps de la royauté, les guerres, etc. Et ces 32 jours ont été abolis. C'était des jours de fête. Ils ont été abolis. Pourquoi ils ont été abolis? Parce que le deuxième temple a été détruit et l'empire des Hashmonaïm aussi. Donc il n'y a aucun sens à fêter des victoires d'un État qui finalement a été détruit. Parmi les 32 jours, il y avait également les 8 jours de Hanouka. Donc logiquement, la fête de Hanouka, puisqu'elle représente la fondation d'un État qui a disparu, la fête de Hanouka devrait être supprimée. Jusque là, vous me suivez? Bon. Et pourtant, la fête de Hanouka n'a pas été supprimée. Il reste encore interdit de jeûner pendant Hanouka, bien que on ait le droit de jeûner la veille et le jour d'après, alors qu'avant c'était interdit aussi. Mais enfin, quand même, Hanouka a subsisté. Et il faut savoir, mais pourquoi Hanouka a-t-il subsisté? D'accord? Oui. Oui, il y avait une opposition culturelle, tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça justifie la préservation de la fête? Si une fête est fondée pour un événement politique, eh bien, à partir du moment où l'événement politique disparaît, eh bien, donc la fête aussi disparaît. D'accord? Donc, logiquement, Hanouka devrait ne plus être fêté. Alors je reprends ici le texte du Rambam, et après on va devoir essayer de répondre à la question. N'est-ce pas? Je lis ici dans... Le Rav Hartouche, je vous l'ai enseigné ce texte? Non. Le Rambam nous dit la chose suivante. Bebaït Sheni, Keshe Malchei Yavan, Gazrouk, Zerot, al Israël. À l'époque du Deuxième Temple, lorsque les rois grecs ont fait des décrets contre Israël, ou Vitlou Datam, et ont aboli leur religion, velo inichuotam la asok batora ou mitzvot, ne les ont pas laissés s'occuper de la Torah et des commandements, ou fashtu yadam bimamuna ou ivunotehem, et qu'ils se sont emparés de leurs biens et de leurs filles, venichnesula echal ou fartsubo peratzot et timoa taharot, et qu'ils sont entrés dans le sanctuaire, qu'ils y ont fait des brèches et qu'ils ont souillé les choses pures, Vetzar lahem le Israël mod upenem ulchatsum lachatz gadol. Et la chose était très dure pour Israël et qu'ils ont été très pressurisés. Ad shirichem alehem elohe avotenu, jusqu'à ce que le Dieu de nos ancêtres les ait pris en pitié. Veoshiam mi Adam, et les a sauvés de leurs mains. Veitzilam, et les a libérés. Comment est-ce que Dieu les a sauvés? Vegavru bene Hashmonaï Akohanim Magdolim Varagum. Et alors les fils de Hashmonaï, les grands prêtres, l'ont emporté et les ont tués. Veoshiu Israël Miadam, et ont sauvé Israël de leurs mains. Donc, au début, il a dit que c'est Dieu qui nous a sauvés. Après, il dit que ce sont les Hashmonaïm qui nous ont sauvés. Alors, qui c'est qui nous a sauvés? C'est Dieu ou les Hashmonaïm? Il dit les deux. Donc c'est la même chose. C'est quoi quand on dit Dieu sauve? Ça veut dire que Tsahal a eu la victoire. D'accord? C'est-à-dire c'est quelque chose de militaire. Cette victoire, Dieu nous a aidés, c'est la victoire militaire des Hashmonaïm. Mais est-ce que la victoire, c'est la seule raison de la fête? Le Rambam dit non, c'est pas ça. Ve'emidu melech mina kohanim. Et ils ont mis en place un roi parmi les Kohanim. Ve'chazra malchut l'Israël. Et la royauté, c'est-à-dire l'indépendance, est revenue à Israël. Yeter al mataim shanim, plus de 200 ans. Adachurban Hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. C'est quoi plus de 200 ans? C'est exactement 206. 206 ans où il y a eu retour de l'indépendance d'Israël. Qui ont été les rois à l'époque, pendant ces 206 ans? Les Hashmonaïm ont régné, d'après le Midrash, 103 ans. Donc 206 moins 103, ça fait combien? 103. Donc il y a 103 ans de la dynastie des Maccabées, des Hashmonaïm, et encore 103 ans, c'est la dynastie hérodienne. D'accord? Hérode et ses descendants, qui sont des rois de Judée à l'époque, il s'agit là-bas de Archélaos, d'Agrippa et autres pauvres types. D'accord? C'est-à-dire, en fait, si vous faites le calcul, qui sont les rois dont nous, qui sont la raison de la fête de Hanouka, ce sont pratiquement tous des pauvres types, des salauds. Ah oui, absolument. Sauf la première génération. La première génération, c'est des gens vachement bien. Mais après, il y a des assassinats dans la famille, ils massacrent les sages d'Israël, ils concluent des alliances avec les Romains. Il participe au jeu d'Hercule à Byblos. Enfin, bref, c'est vraiment des pauvres types, quoi. Et le Rambam nous dit, l'indépendance est revenue à Israël pendant plus de deux siècles, et c'est la raison de la fête de Hanouka. Extraordinaire, quand même. Ça veut dire qu'en fait, la joie, c'est d'être indépendant, même sous les pires des juifs, et pas asservi, même sous les meilleurs des goyim. D'accord? C'est un enseignement qui ressort de Rambam. Jusque là, vous me suivez? Donc, ça veut dire que, quelle que soit la qualité humaine du dirigeant d'Israël, le fait même qu'il représente l'indépendance d'Israël, cela mérite une fête. Jusque-là, le Rambam, vous avez vu qu'il a quand même beaucoup parlé. Il n'a rien dit de la fiole. Bizarre quand même. Et la fiole alors? Il s'en fiche? Il se fiche de notre fiole? Non, alors il y a une suite. Urche Gavrou Israël Aloivem Vibdoum. Et lorsqu'Israël l'a emporté sur ses ennemis et les ont détruits, c'était le 25 du mois de Kislev. Ils sont entrés dans le sanctuaire. Ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le temple. Et la part Echad, sauf une petite fiole. Qui ne suffisait à allumer qu'un seul jour. Et ils ont allumé avec cette fiole les lumières de la menorah pendant 8 jours, jusqu'à ce que l'on ait concassé des olives pour en sortir de l'huile pure. Donc il y a ici deux événements. Il y a un événement gigantesque au niveau politique, mais il y a également un événement miraculeux qui se produit dans l'intérieur du sanctuaire et qui participe aussi de la fête de Hanouka. Donc, ça fait pour l'instant combien d'événements? Deux. S'il y a deux événements à commémorer, combien de mitzvot faut-il établir? Deux. D'accord? Quelles sont les deux mitzvot de Hanouka? Les beignets, ce qui est l'essentiel, évidemment. Oui. Le Hallel et les lumières, n'est-ce pas? Le mot Hanoukia, d'ailleurs, est un mot en hébreu moderne qui n'existe pas dans la Gemara, ni chez les Chachamim. On dit Ner Chanukah, mais l'expression Chanukia a été inventée par Bialik. Par Bialik au XXe siècle. D'accord ? Ça, c'est pour que soyez au courant, quoi. Et donc, il y a ici deux halakhot qui sont les fruits des deux événements. Qu'est-ce qui correspond à quoi ? Le halal à quoi ? Le halal, c'est pour la lumière, et les lumières, c'est pour l'indépendance. C'est comme ça que tu vois ça. Alors, tu dis autrement, alors ? Essayons de voir. Le Rambam nous a ici donné deux événements. Après, il dit, « Umipneze, à cause de cela, « Itkinu chachamim sheboto ador » les sages de cette génération ont institué « Sheyu shmonat yamim ha'elu shetrilata misrim v'chamisha v'kislev yeme simcha v'halel » Ils ont institué que ces huit jours qui commencent le 25 du mois de Kislev seraient des jours de réjouissance et de halel. Comment est-ce qu'on fait des réjouissances ? Les beignets. Donc tu as bien raison. « Umadlikin bahen anerot ba'erev » Et on allume les lumières le soir, alpitre abatim, sur les ouvertures des maisons, bechol laïla ve laïla mishmona hayam mishmona alelot, pour chacune des huit nuits, la rot ou le galot anes, pour dévoiler et publier le miracle. Et donc vous avez ici huit jours pendant lesquels on allume les lumières. Donc le Rambam nous a dit deux choses. Il y a ici le Hallel et les lumières, parce qu'il y a eu deux événements. Donc le Hallel correspond à l'indépendance politique, et les lumières au miracle de la fiole. Donc vous avez ici deux événements. C'est quoi ça ? Ça veut dire que le Hallel est récité à chaque fois qu'il y a indépendance politique. C'est la raison pour laquelle nous récitons le Hallel pour trois événements d'indépendance politique. Le premier est la sortie d'Égypte, le deuxième, la fête de Hanouka, et le troisième, Ayom HaAtzmaout. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on passe de la servitude à l'indépendance, la halakha est qu'il faut réciter le Hallel. Oui. Sukkot, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Ah oui, d'accord, oui. Au Shrodesh, on ne récite pas le Hallel. Oui, alors c'est pas un vrai Hallel, ça, c'est autre chose. C'est un demi-Hallel, c'est autre chose. D'accord ? Donc, on récite le Hallel, là, c'est ce que dit la Gemara, à chaque fois qu'on sort de Me'avdut Techerut, à l'indépendance politique, donc on dit le Hallel. Oui ?
On voit que dans la question, c'est qu'on a perdu la main pour continuer à faire.
Oui, je n'ai pas encore répondu à ça, effectivement. Oui. Alors ? Non, vas-y, tu veux dire.
Je pensais que vous avez oublié la question.
Non, j'avais oublié la question, c'est vrai. Mais c'est bien que tu l'aies rappelé. Tu vois, c'est très bien. On n'a pas encore répondu, c'est vrai. Oui ?
Une question sur la menorah. La menorah qu'ils ont fait à l'époque, on n'avait plus la vraie menorah. Donc, ils l'ont fait, on dit, avec ce qu'ils ont
trouvé. Oui, alors ?
Est-ce qu'on sait quelle mèche ils ont utilisé ? Parce que si la mèche a été plus petite que la mèche d'habitude, elle consommait beaucoup moins d'huile. Donc ça aurait été logique que la quantité d'huile requise pour allumer des menorahs de ce jour tienne pour plus.
Oui, c'est vrai.
On ne sait pas avec quoi ils ont allumé.
On peut faire des suppositions, mais il n'y a aucune source.
On sait qu'ils avaient des mères, on ne sait pas.
J'en sais rien. Aucune idée. J'ai lu des tas de choses là-dessus, mais tout ça, c'est des spéculations. D'accord. Bon. Donc je disais, il y a ici deux événements, deux mitzvot, le Hallel pour la victoire, plus précisément la victoire avec indépendance, et les lumières, c'est pour l'histoire de la fiole. Vous savez que pour chacune de ces bénédictions, que pour chacune de ces mitzvot, il y a une bénédiction. La bénédiction du Hallel, Asher Kideshanu Bemitsota, Vetsivanu, Liko ou Ligmor, enfin, est à Hallel. En tout cas, nous avons donc le devoir, Dieu nous a ordonné de lire le Hallel. Oui.
Pourquoi il n'y a pas de il n'y a pas eu de victoire.
Il y a eu indépendance, c'est encore plus fort. C'est important, c'est l'indépendance. Et donc, Il y a ici une bénédiction. Il y a une autre bénédiction qu'on récite pour les lumières. Asher ki deshanu bemitzvota vetzivanu le'adlik ner Hanouka ou ner shel Hanouka ou shel Hanouka. Nous avons donc, Dieu nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. La Gemara pose la question, Echan tzivanu, où est-ce qu'il nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka alors que ce n'est pas dans la Torah? Ce qui est surprenant, c'est que la Gemara n'ait pas posé la même question pour le Hallel. On dit Vetzivanu likro et Hallel. Dans ce cas-là, se pose la question, où est-ce que nous avons reçu l'ordre de faire le Hallel? Or ça, la Gemara ne le demande pas. Et où est-ce qu'il est ce klal, je ne sais où? Il est dans la Gemara dans le traité de Pessahim, à la page 117a, Kufzaïna Moudalev, que les prophètes ont institué de dire le Hallel à chaque fois qu'il y aurait indépendance. Donc le problème ne se pose pas. La Gemara ne demande pas d'où est-ce qu'on sait qu'il faut dire le Hallel. De plus, si on voit dans le texte de la Gemara dans le traité de Shabbat, quand la Gemara raconte ce qui s'est passé à Hanouka, et qu'elle raconte l'histoire de la fiole, elle dit que l'année d'après, les Hashmonaïm ont institué le Hallel. Mais la Gemara ne dit pas les lumières. Comme quoi, on savait très bien d'où venait l'ordre de faire le Hallel. Donc la seule question qui se pose, c'est pour les lumières, parce que les lumières ne sont pas mentionnées dans la première source qui parle de Hanouka. Ah. Alors que faire? Eh bien, tout simplement, la Gemara donne deux réponses. Elle dit d'une part, parce qu'il est dit Lotasur, tu ne t'écarteras pas de ce que te diront les Rachamim. Et donc, d'après cette réponse de la Gemara, ça voudrait dire que le Sanhedrin de l'époque, sous la direction des Hashmonaïm, a décidé d'instituer les lumières de Hanouka. Et c'est évidemment l'opinion qui est retenue par le Rambam. Mais il y a une deuxième opinion donnée par la Gemara, qui est que la raison pour laquelle on dit « Vetzivanu l'adlik ner Hanouka », qu'est-ce qu'il y a encore? D'après la deuxième opinion de la Gemara, pourquoi est-ce qu'on dit « Vetzivanu l'adlik ner Hanouka » C'est parce qu'il est dit dans la Torah « She'al avicha ve'yagetra ». Interroge ton père qui te dira quoi faire. Ça veut dire que d'après cette deuxième opinion, l'origine des lumières n'est pas par une institution du Sanhédrin, mais par une institution qui a son origine dans le peuple. Le peuple a commencé à allumer des lumières sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Et pourtant, tout le monde le fait. Donc c'est Vetzivan. Ce qui est l'origine de l'opinion selon laquelle on récite une bénédiction pour un minhag. Même si ça n'a pas été institué par les Chachamim. Oui. Non, 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 non. C'est pas Zechor Yemot Olam. C'est She'al Avicha V'Yagetra. C'est tu interroges ton père pour savoir ce que tu dois faire. Interroge ton père pour savoir ce qu'il faut faire. Ça veut dire ce que ton père a fait, tu le fais. Ce qui veut dire que spontanément, après la victoire des Hashmonaïm, des gens dans le peuple ont commencé à allumer des lumières. Non. La deuxième génération a le devoir de faire la bracha. La première génération le fait spontanément. Je connais une dame qui, lorsque le kotel a été libéré, elle a allumé des bougies. Qui lui a dit d'allumer des bougies? Personne. Mais elle l'a fait spontanément. Il est tout à fait probable que lors de la libération de Jérusalem, la purification du temple, il y a des tas de juifs qui se sont dit ben, il faut faire quelque chose. Alors ils ont allumé des lumières. Et c'est devenu une mitzvah. Ça veut dire que dans la fête de Hanouka, d'après cette opinion-là, il y a deux éléments. Un élément qui vient, si vous voulez, par l'autorité du haut vers le bas, mais il y a un deuxième élément qui vient du bas vers le haut. Ce qui fait qu'en fait, il y aurait deux canaux différents pour la Torah. Il y a un canal qu'on peut appeler Torah Harav, c'est Manitou qui a enseigné ça. Il y a la Torah qui vient par le maître, Et puis il y a une autre Torah, Torah Ta'av, celle qui vient par le Père. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une autorité au clan Israël indépendamment de celle de la Torah. En tout cas, une autorité de Torah qui vient du peuple, indépendamment des rabbins. Non, puisque la Torah nous dit, She'al avicha ve'yagedcha, puisqu'il faut faire ce que m'a dit mon père, donc j'ai le devoir de faire ce que m'a dit mon père, donc v'tzivanu. Et c'est de là que vient la bracha. Oui, comment ? Exactement, v'tzivanu, par nos pères, de faire ça. Ouais. Oui. Oui, mais comment est-ce qu'Hachem il nous a donné le devoir ? Par les Chachamim ou par mon papa ? Oui, mais c'est Hachem qui m'a dit de faire ce que fait mon père. D'accord ? Oui. Oui, et alors ? Il y a des minagim pour lesquels on fait la bracha, il y en a pour lesquels on ne fait pas. Alors, il y a tout un débat là-dessus sur la halakha, dans le rivage. Par exemple, il y a un minhag que tout le monde, sur lequel tout le monde fait la bracha, sans exception, c'est d'allumer les lumières de Hanouka à la synagogue. Ce qui est le contraire de la Gemara. D'après la Gemara, l'institution, c'est d'allumer les lumières à la maison. Et pourtant, on les allume aussi à la synagogue avec bracha. D'où ça vient ça ? Tous les rishonim disent parce que c'est un minhag. Nulle personne. Personne interdit de faire la bracha à la synagogue. Non. Pour le matin, ça c'est autre chose. Mais le soir, entre mincha et arvit, tout le monde le fait. Avec bracha. Et pourtant, ce n'est pas dans la Gemara. Ça n'a rien à voir. Allumer à la synagogue n'acquitte pas d'allumer chez soi. Et alors ? Mais c'est une bracha pour autre chose. Ça, c'est pour le minak, ça, c'est pour la takana. Ce sont deux mitzvot différentes. Hein ? C'est la même bracha pour deux choses différentes. Ben non. Ben non. Ben parce que allumer à la synagogue est un minak pour Pirsou Menissa, tandis que la mitzvah originelle, c'est d'allumer chez soi. Ça n'a pas été aboli.
Si c'est un minak, c'est une obligation. Alors on
peut
faire les deux.
Non. Quoi ? On va faire les deux ? Oui, bien sûr, on fait les deux. Bien sûr qu'on allume chez soi. Mais c'est ce que j'ai dit. Bien sûr qu'on allume chez soi, évidemment.
C'est une obligation d'allumer aussi à la synagogue.
Bien sûr. Mais simplement, il y a une personne à la synagogue qui le fait pour tout le monde. Tandis qu'allumer chez soi, chacun doit allumer. C'est tout bête, quoi. Oui. Oui, alors ça serait un sujet de cours de halakha que je ne veux pas développer maintenant. D'accord ? Je peux ne pas développer ? J'ai le droit, n'est-ce pas ? Bon, d'accord, oui.
Et ce minhag-là, on prend, il faut que ce soit quand même dans le cadre de la halakha ou pas ? Ça va aller en compte ?
Ça revient à sa question. Donc, il est tout à fait probable que viendra un jour où pour la viande grillée à Yom HaAtzmaut, tu auras une bracha. Oui, mais la viande grillée à Yom HaAtzmaut, c'est une sorte d'habitude qui a été prise par tout Israël, y compris religieux et pas religieux, etc., et c'est répandu beaucoup plus que le Hallel, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a certainement une signification à cela. Un jour, on étudiera ça. Donc, il y a ici toujours la question qui reste. Pourquoi est-ce que la fête de Hanouka n'a pas été abolie ? D'accord ? Cette question est posée par la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, page 17b. Zayin Amoud Bet. La Gemara pose déjà la question, pourquoi est-ce que Hanouka n'a pas été aboli ? Et la Gemara répond, Mishum de Iparsam Nissa, parce que le miracle a été publié. C'est pas simplement un miracle, c'est un miracle qui s'est répandu dans la terre tout entière. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à Hanouka ? Il s'est passé quelque chose de très important, qui est, je vais dire quelque chose d'un peu dur. S'il y a des gens qui sont sensibles, vous pouvez sortir maintenant. Voilà, je vous ai prévenu à l'avance. Hein ? Il n'y a que des durs ici. Oui. c'est grâce, ou à cause, si vous voulez, de la victoire des Hashmonaïm que le christianisme a été fondé. A été fondé. Ben oui. Parce que jusqu'à la victoire des Hashmonaïm, le monothéisme, c'était un petit truc folklorique qui concernait quelques villages en Judée. La Judée étant une région peu importante dans l'Empire séleucide. Brusquement, les Juifs sortent de leur incognito, ils fondent un État monothéiste et ils luttent contre le paganisme et ils font partie maintenant de la culture universelle. Et c'est à partir de ce moment-là que le monothéisme a gagné dans l'humanité. À travers les cultes, le christianisme, l'islam, tout le bazar. Mais on peut dire le moment où tout change, c'est ce moment-là. Grâce à la folie d'un type dans son village qui n'accepte pas qu'on fasse un sacrifice à Zeus. Oui. Non.
Après, donc il y avait déjà une indépendance, vous avez le premier temple. Donc les gens, ils savaient que.
Quoi?
C'est-à-dire, c'était connu dans le monde qu'il y avait un état juif avec un temple et des coups qui prennent.
J'ai rien compris. J'ai rien compris. Tu dis qu'on avait le premier temple. Le premier temple avait été détruit déjà depuis longtemps.
Oui. Donc qui dit premier temple? Dit que c'était connu qu'il y avait des juifs qui croyaient en un dieu. Là, vous êtes en train de dire.
À l'époque du roi Shlomo. Oui, mais il a été détruit ce temple. Il a été détruit cet état.
Oui, mais les gens, ils savaient alors.
Mais non, justement, ils savaient une chose, c'est que les Juifs ont été détruits.
Et donc, ils savaient quoi, les Juifs? Ils savaient...
Oui, mais ils savaient qu'ils avaient perdu, que les dieux l'avaient emporté.
Mais là aussi, du coup, ça aurait même.
Mais alors, donc, la première fois, ça aurait pu se faire. Au moment donné, on venait d'avoir le premier temple, donc il n'avait pas encore été détruit.
À l'époque du premier temple, effectivement, il y avait une influence universelle.
Donc dans ce cas-là,
mais elle a très vite disparu. Parce que les Hébreux eux-mêmes ont adopté les cultes idolâtres. Il n'y avait que quelques prophètes qui criaient et qui n'étaient pas écoutés de la foule. D'accord? Tu comprends ce que je te dis? Eh oh!
Non, mais je sais
pas. Non, t'as pas compris. Tu as pris ici quelques données qui te manquent. L'époque de Hanouka, c'est quand? Non. Oui. D'accord. Quand le deuxième temple a été fondé, il y avait l'indépendance ou pas?
On était sur terre, mais on n'avait pas
On n'avait pas d'indépendance, n'est-ce pas? On était sous la domination perse, et après sous la domination grecque. Et après, lorsqu'il y a eu les persécutions d'Antiochus, il y a eu une révolte, et là a été fondé un État juif, après plusieurs siècles d'absence totale d'indépendance. D'accord?
Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la première indépendance qu'on a eue,
ouais.
D'accord, et ben, le christianisme, il aurait très bien pu se créer.
Il aurait pu se créer à l'époque, c'est vrai. Mais, pourquoi ça n'a pas été créé à l'époque? J'ai répondu, mais tu n'as pas écouté. Parce que cet État s'est effondré en lui-même, du fait même que les Juifs ont adopté les cultes étrangers. D'accord? Il n'y avait que quelques prophètes qui braillaient un peu partout et qui n'étaient pas écoutés de la foule. Oui, mais il y a seulement 40 ans où ça a tenu plus ou moins, c'est-à-dire le royaume de Shlomo. Après, pendant tout le reste du temps, les Hébreux ne font que des bêtises.
Et Dieu a accepté d'avoir un temple pour 40 ans et 360 ans pour
des. Ça, c'est des questions qu'il faut poser à Dieu. Le Chumash? Non. Le Chumash était étudié par les Kohanim, c'est tout. Oui? Oui. Comment c'est-il donc que le monothéisme a persisté même après la destruction du deuxième temple? Eh bien, c'est exactement ce que dit la Guémara. C'est qu'il s'est passé quelque chose à Hanouka d'assez extraordinaire, c'est que ça a eu assez de force pour surmonter même la destruction du temple. Exactement. Oui. Bon. Et donc. Ça explique pourquoi la fête de Hanouka n'est pas abolie, parce qu'elle a eu une sorte d'écho énorme qui a dépassé la dimension politique. C'est-à-dire, on n'aurait pas fait la fête uniquement pour des raisons spirituelles, on l'a fait pour des raisons politiques. Mais ces raisons politiques portaient en elles un épanchement spirituel tel qu'il a pu continuer même après. Oui ?
Comment la vie politique peut autant avoir de...
Pour une autre, très simple, on ne respecte que celui qui est fort.
Comment ?
On ne respecte que celui qui est fort. C'est un principe du roi Shlomo, Chochmat Amisken Bezouya, la sagesse du malheureux est méprisée. Udvara Venam Nishmaim, ses paroles ne sont pas entendues. Effectivement, pendant tout le temps de l'exil, les Juifs n'étaient pas écoutés. On voulait bien volontiers dire que le christianisme a des racines juives, que l'islam a des racines juives, mais les Juifs ne sont pas intéressants. Ce n'est qu'à partir de la guerre des six jours que tout a changé. Qu'à partir de ce moment-là, les goïms ont commencé à s'intéresser au judaïsme. Le fait est là, c'est un fait historique. Donc, je reviens à cette histoire des Lumières. Ça veut donc dire que les Lumières de Hanouka, qui sont restées centrales dans la conscience juive, ont pris brusquement plus d'importance que le Hallel. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi la mitzvah de Hanouka, ben, il vous dira les bougies. Alors qu'en fait, ce qui est vraiment plus important, c'est le Hallel. Mais dans la conscience, mais étant donné que le Hallel vient pour l'indépendance politique, que cette indépendance a été perdue, alors ça, c'est devenu très mineur dans la pensée juive, et c'est brusquement les Lumières qui l'ont emporté. Est-ce que là vous suivez ? Donc ça commence à répondre à la question que tu as posée. D'accord. Et le Rambam, je continue ici dans le Rambam. Veyamim elu hem anikraim Hanouka. Ces jours-là sont appelés Hanouka. Pourquoi ? Hanouka veut dire inauguration. Inauguration de quoi ?
Du temple.
C'est-à-dire le temple a été réinauguré. Il avait été souillé, donc il fallait l'inaugurer à nouveau. Et si vous regardez dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Dans le Kitsur Shulchan Aruch, il dit Hanouka fait parce qu'ils se sont reposés le 25. Et puis, on rajoute, et certains disent parce que c'était l'inauguration du temple. Vous voyez ce que fait l'exil ? Il transforme une dracha, une gematria douteuse, en étant en raison initiale de la fête, et la réalité historique devient quelque chose que l'on dit. Certains disent que. D'accord ? Non, c'est significatif de ce qui s'est passé pendant le temps de l'exil. Maintenant, ma question est la suivante. L'inauguration du temple a été faite donc le 25 du mois de Kislev. C'est très bien ça. Mais pourquoi est-ce que les Hashmonaïm ont-ils fait l'inauguration du temple le 25 Kislev ? Parce qu'ils ont gagné. Or, si tu lis dans le livre des Maccabées, tu vois que Jérusalem a été conquise le 5 Kislev. Donc il y a 20 jours. Non ? Ils se sont arrêtés, bon, ils ont eu la victoire, ils sont arrivés dans le Beth Amikdash, ils ont vu qu'il était en ruine, enfin plus ou moins en ruine, et donc ils l'ont réparé, quoi. D'accord ? Mais ils ont donc décidé sciemment de faire une fête le 25 qui se lève. Oui ? Donc tu dis que ça prend du temps pour retaper tout ça, enlever les herbes qui avaient poussé, etc. Donc ça prend du temps. Et puis il fallait bien repeindre un peu, etc. Hein ? Oui, c'est ça ? Ben, ils ont pas trouvé, ils se sont dit, voilà, on va commencer. Ah tiens, c'est embêtant, il n'y a pas d'huile. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? En vérité, la véritable raison est donnée dans le livre des Hashmonaïm lui-même, dans le livre des Maccabées. Parce que 3 ans auparavant, le 25 qui se lève, Antiochus avait inauguré dans le Beth Amikdash un temple pour Zeus, en sacrifiant un porc sur l'autel. Hein ? Le 5 qui se lève. Ouais. Et donc, ils ont attendu quand même. Ils ont dit, et dans le livre des Maccabées, c'est écrit en toutes lettres, ils ont dit que c'est 3 ans, jour pour jour, après l'inauguration du temple idolâtre dans le Beth Amikdash, qu'ils ont fait le 25 qui se lève. Donc, l'inauguration antérieure, c'était une autre Hanouka, une autre inauguration, la Hanouka d'Antiochus. Ah. Mais, à nouveau, se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'Antiochus, lui, a décidé de faire l'inauguration de son temple païen le 25 Kislev? Hein? Alors, il aurait pu faire ça le 25 Elul, dans ce cas-là. Hein? Vous avez compris ma question? Qu'est-ce qui lui a appris Antiochus de faire sa Hanouka à lui le 25 Kislev? Quoi? Mais il comprend quelque chose, lui, de la réalité spirituelle, Antiochus? Alors j'aimerais comprendre qu'est-ce que lui, il lui est passé par la tête. Oui? Qu'est-ce qui s'est passé le 25 qui se lève à une date antérieure, oui? Tu vas chercher très loin. Tout simplement, je ne suis pas contre, mais tout simplement, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Le 25 du mois de Kislev, c'était la fête de Hanouka. Ben oui. Vous avez qu'à lire dans le livre de Haggai, dans le livre de Haggai, le prophète Haggai, dans les Tréhassar, il est dit en toutes lettres que le 24 du mois de Kislev a été achevée la construction de l'autel et donc les sacrifices ont commencé le lendemain. Donc l'inauguration de l'autel du deuxième temple, c'était le 25 Kislev. Et c'était donc fêté par les Juifs chaque année. Alors Antiochus se dit, je vais leur souiller leur temple le jour de la fête de leur inauguration. Donc il y avait une autre Hanouka antérieure. Ça fait déjà trois Hanouka. Oui, mais pourquoi est-ce que les fondateurs du deuxième temple, avec les prophètes qui étaient associés, ont-ils décidé d'inaugurer le Mizbéar le 25 qui se lève? Hein? Le Maharal de Prague nous dit « Les grandes choses ne se passent pas par hasard. » D'accord? Or, c'est une grande chose. Surtout que le prophète dit « Faites attention à ce jour-là. » N'est-ce pas? « Simu levafrem minayom azevala. » C'est tout simple, parce que c'était la fête des Lumières. Ben oui, vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah qu'on appelle les bikurim. C'est quoi les bikurim? Les prémices. Quand est-ce qu'on amène les prémices dans le temple? Quand? La fin de la récolte, c'est la fête de Soukhot. Quand est-ce que les prémices, c'est le début de la récolte? Quand est-ce qu'on amène les prémices dans le Beit HaMikdash? Il n'y aurait pas une fête qu'on appelle Chag HaBikurim par hasard? Oui, alors, à partir de Shavuot, c'est le moment où on peut commencer. C'est-à-dire, si j'ai des grenades dans mon verger, j'amène les premières grenades au Beit HaMikdash à partir de Shavuot. N'est-ce pas? Mais jusqu'à quand? Alors, en principe, jusqu'à Soukhot, puisque Soukhot, c'est le moment de l'engrangement. Mais quels sont les fruits dont on amène des prémices?
Ah, les cinq fruits, les cinq fruits d'Israël.
Les cinq fruits d'Israël, n'est-ce pas? Sur les sept espèces, il y en a cinq qui sont des fruits. Donc pour les figues, les grenades, les olives, les dattes et les raisins. D'accord? Bon, très bien, on peut amener ça jusqu'à Soukhot. Par exemple, j'ai des grenades. Quand est-ce que les grenades apparaissent? À peu près à l'époque de Rosh Hashanah, n'est-ce pas? On mange des grenades à Rosh Hashanah. Et à partir de là, on peut amener. Les figues, on les amène, elles commencent à pousser à peu près à l'époque de Tisha B'Av, à peu près dans cette région-là, n'est-ce pas? Mais il y a un problème, c'est que les olives, elles n'apparaissent qu'après Soukhot. La cueillette des olives, c'est quand? Au mois de Kislev, et ça finit à Hanouka. D'accord? Et donc, d'ailleurs, c'est l'époque où, en Yehuda et Shomron, il n'y a pas de jet de pierre, parce que les enfants sont occupés à faire la récolte des olives, et que s'il y a un couvre-feu à cause de ça, la récolte est fichue. D'accord? Et donc, la Mishnah nous dit que les olives, on peut les amener jusqu'à 25 qui se lèvent. Maintenant, imaginez une société majoritairement agricole qui a fini de récolter les olives, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une fête. De combien de jours? 8, évidemment, comme la fête de Soukhot. Et c'est quoi le motif central de la fête? L'huile. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile? On allume des bougies, on allume des lumières, et on fait des beignets. Et comme c'est l'hiver et qu'on reste à la maison, on joue avec une toupie. Donc, c'était le moment de la fête des lumières. Or, ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple, le deuxième temple est une époque où l'obscurité tombe dans le monde. C'est le temps où cessent les prophètes. Mais il reste quelque chose, un peu de Shekhina, un peu de présence divine est présente dans le monde à travers le temple de Jérusalem. Donc les prophètes qui ont inauguré le deuxième temple se sont dit, nous sommes comme une lumière dans l'obscurité. Donc c'est le moment, le 25 qui se lève, qui est le jour de la fête de la lumière, c'est le moment de le faire. D'accord? Maintenant, si c'est vrai, ça veut donc dire que la fête des lumières était bien antérieure au miracle de la fiole. Le fait que ce soit un miracle qui s'est fait justement sur l'huile, le jour de la victoire des Hashmonaïm, c'est parce qu'effectivement ça correspondait à la nature de cette époque. Mais qui est le premier homme à avoir fêté les lumières à ce moment-là? Le premier homme. Vous savez qu'il y a un texte dans la Gemara, dans Avodah Zarah, qui parle de ça. Que le premier homme, il a péché quand? À Rosh Hashanah, n'est-ce pas? Et puis il a vu, dit la Gemara, que les jours devenaient de plus en plus courts. Et donc il s'est dit, l'obscurité va engloutir le monde à cause de moi. Et donc il a jeûné pendant 8 jours, jusqu'au solstice d'hiver, qui est la journée la plus courte. Et après il a vu que les jours allaient en grandissant. Et on le voyait, pour le voir, ça lui a pris quelques jours. Donc il est arrivé au 25 décembre. Et il a fait une fête pendant 8 jours. Donc il y a une fête pour la lumière, à partir du 25 décembre jusqu'au 1er janvier, qui, si vous voulez, statistiquement, disons, si on fait la moyenne, tombe donc le 25 qui se lève. Et c'était la fête du premier homme. Donc, non, le moment du solstice d'hiver, c'est quand? Non, c'est le 21. 21 décembre, mais pour voir que les jours grandissent, il faut attendre quelques jours. Et alors il a dit, tiens, c'est donc la nature du monde. Donc il est arrivé le 24 décembre au soir, et il a fait une fête de 8 jours. Ce qui est l'ancêtre de la fête des Saturnales à Rome, qui est l'arrière-grand-père de la fête de Noël chez les chrétiens, et qui est également l'ancêtre de la fête de Hanouka chez les juifs. Vous voyez, donc il y a un rapport. Mais ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plus de lumière dans le monde à partir de ce moment-là, oui. Adam Rishon. Ouais. Enfant en hébreu. Adam, homme. Premier Rishon. Adam Rishon, premier homme. Mais ça veut donc dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui, dans l'ordre de la nature, a arrangé qu'il y ait plus de lumière dans le monde à partir de ce moment-là. N'est-ce pas? Donc c'est le premier à avoir fait une fête des lumières, c'est le Créateur en fait. Essayons de voir un peu ce qu'il a fait le Créateur. Bereshit. Bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et Haaretz, ve'aretz Haïta Tou, ça fait donc 10. Vavou, ve'chosher, al, pene, tehom, ve'ruach, Elohim, rachefet, al, pene, ça fait déjà 20. Hamayim, va'yomer, Elohim, yehi, or, 25. Le 25e mot dans la Torah, c'est lumière. Et c'est dans le 3e verset, donc c'est le 3e mois à partir de la création du monde. Et donc, ça se tient. Donc, ça veut dire que la raison originelle de la fête, c'est effectivement dans l'ordre du monde, mais tant qu'il n'y a pas de raison politique, il n'y a pas d'événement politique qui nous amène à faire la fête, on ne la fait pas. Mais l'événement s'est produit, c'est parce que c'était le moment que l'événement s'est produit. Ce n'est pas l'événement qui a créé le moment. Vous avez compris? Oui.
J'ai bien entendu
cacher, il a caché. Oui, bien sûr, c'est la lumière cachée. C'est ce que dit le Bnei Issachar, que cette lumière est cachée dans les lumières de Hanouka. D'accord? Oui. Troisième mois. Troisième verset. Et donc, en fait, si ce que je vous dis là est vrai, ça veut dire qu'en fait, l'origine de la fête de Hanouka est dans l'idée de la lumière, la centralité de la lumière, et pas dans l'indépendance politique. Ah ah, les sionistes l'ont dans le baba. Puisque on leur a prouvé maintenant que c'est une histoire de lumière, pas une histoire d'indépendance. Oui.
Et donc le monde des mois, comment ça décède et quantifié ?
Je parle de la création du monde.
Vous avez dit le troisième mois.
J'ai dit le troisième mois de la création. Je l'ai bien dit, non ? Bon, oui. Bien sûr, tout à fait. Mais est-ce qu'il y aurait pas un hiatus ? Par exemple, jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, c'était la lumière qui était au centre de cette fête. À partir du moment où il y a eu les Hashmonaïm, alors on s'est souvenu de la victoire politique. Le deuxième temple a été détruit, l'idée de la lumière est redevenue centrale. Jusqu'en 1917. En 1917, la veille de Hanouka, Jérusalem a été conquise par le général Allenby, ce qui était la première concrétisation de la déclaration Balfour, et c'était donc le début du retour de l'indépendance politique des Juifs, et donc la fête de Hanouka a retrouvé sa signification politique. Donc ça voudrait dire qu'il y a en fait quatre époques différentes pour la fête de Hanouka. Lumière-indépendance. Mais en vérité, c'est exactement la même chose. Parce que l'indépendance politique en question, c'était l'indépendance contre les Grecs. Or, les Grecs, traditionnellement, représentent, d'après les Midrashim, l'obscurité. Maintenant, quand vous affirmez que la Grèce, c'est l'obscurité, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu obscurantiste ? C'est quand même bizarre de dire un truc pareil. C'est-à-dire, de toutes les civilisations du monde, vous avez trouvé précisément les Grecs pour dire que c'est eux l'obscurité, alors qu'ils ont amené la science, la philosophie, la démocratie, l'esthétique, tout ça, des très grandes valeurs. Comment est-ce que vous pouvez dire ?
C'est eux qui donnent la lumière.
C'est eux qui donnent la donc c'est pas l'obscurité.
Ils éloignent la lumière, ils nous ont empêchés de faire les mitzvot.
Et alors, oui, mais pourquoi ? Oui, d'accord, ils nous ont empêchés de faire les mitzvot, ils ne sont pas les seuls. Mais il y a quelque chose d'autre. Une lumière obscurcit une autre lumière. C'est une rivalité entre deux lumières. Comme il y a rivalité entre deux lumières, pour nous, leur lumière est notre obscurité. Il y a un midrash qui dit qu'Alexandre le Grand est appelé Aïl HaMeshoulash, le triple bélier. Pourquoi le triple bélier ? Le midrash dit parce que Alexandre a réussi à conquérir le nord du monde, le sud du monde et l'ouest du monde. Mais l'est, il n'a pas réussi à le conquérir. Qu'est-ce qu'il y a à l'est ? Hein ? Il y a l'origine de la lumière. C'est-à-dire, il y a là où la lumière commence, eh bien, la Grèce n'a pas d'emprise. Et c'est historiquement prouvé. Vous savez que quand Alexandre le Grand est arrivé jusqu'en Inde, il a voulu continuer.
Non,
il n'est pas mort. Mais ses soldats se sont opposés. Ils ont dit c'est trop loin. Comment ça trop loin ? De toute façon, vous n'allez jamais rentrer en Grèce. D'accord ? Mais pour eux, ils ont ressenti que ça devait s'arrêter là. Et depuis, il y a cette césure entre le monde occidental et oriental. C'est-à-dire, c'est très fort. Ça veut dire que il y a, quand on parle de lumière d'origine, la Grèce n'a pas d'emprise. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.